Chapitre 5. Vérewall. Le lendemain, dans tout Paris, il n'était question que d'un enfant jeté dans un égout, et les crieurs publics s'en allaient processionnellement par la ville, hurlant et vendant pour un sou le détail exact de l'horrible infanticide commis au faubourg Saint-Germain par une fille de grande maison. Cet événement avait jeté l'effroi parmi la bourgeoisie, qui brûlait déjà de voir l'affaire à la cour d'assises pour la connaître tout à fond, et qui, rancunière, jouissait par avance du spectacle rare d'une fille noble sur la sellette et l'échafaud. À l'hospice, on avait d'abord désespéré des jours d'Apolline, mais on l'entoura de tant de soins sur la recommandation de messieurs de la justice qui redoutaient que la mort ne tranchât la question sans eux et n'empiétât sur leurs droits et sur ceux du bourreau. Au bout d'une semaine environ, elle commença à recouvrer quelques forces, et la connaissance lui revint. Son étonnement fut grand et douloureux quand elle se vit dans une salle d'hôpital. Elle n'avait aucune souvenance de ce qu'elle avait fait, ni de ce qui s'était passé. Ainsi qu'un ivrogne au réveil ne conserve aucune idée des folies de son ivresse. Elle questionna. On lui répondit que vaguement. Quand elle fut parfaitement rétablie, on vint lui annoncer qu'on allait la transférer à la prison de la force. « À la force ? » s'écria-t-elle. « Et pourquoi ? Sous prévention d'infanticide. Moi ? Oh non, vous êtes fou ! Vous avez jeté votre enfant dans un égout !» Alors Apolline, consternée, porta ses mains à son flanc, et semblant sortir en soubresaut d'un sommeil et se rappeler subitement, tomba froide sur le pavé. Quand elle reprit ses esprits, elle était dans un cachot étroit et sombre. Son procès s'instruisit longuement, et après 4 mois de détention et de contact avec tout ce qu'il y a de plus fétide et de plus croupi dans la mare sociale, elle comparut à la cour d'assises. Le grand scandale avait attiré une foule innombrable de curieux qui voulaient voir la belle marâtre du faubourg Saint-Germain. On lui avait fait une réputation de beauté égale à celle de sa férocité. Les vitres des marchands d'estampes étaient garnies de prétendus portraits de la belle Apolline, aussi authentiques que ceux d'Héloïse ou de Jeanne d'Arc. L'un rappelait Madame de Lavallière, l'autre Charlotte Corday, l'autre Joséphine. Mais le public, qui veut être dupé à tout prix, en était fort satisfait. Le palais était aussi encombré que si la basoche eût dû jouer un mystère sur la table de marbre. Un murmure général de désappointement s'éleva quand les huissiers annoncèrent que le tribunal ordonnait 8 clos pour ce jugement. Bientôt, Apolline fut introduite dans la salle. Sa jeunesse, sa vénusté, son air triste et candide, sa voix suave et son maintien impressionnèrent vivement la cour blasée. Pour ne pas compromettre Bertholin, elle avait déclaré qu'un homme, à elle tout à fait inconnu et qu'elle n'avait jamais revu, un soir s'était glissé chez elle, l'avait forcée avec violence. Quant au crime qu'on lui imputait, elle avouait qu'il pouvait être, mais qu'il ne lui en restait nul souvenir positif, que n'ayant pris aucun aliment depuis plusieurs jours, quand les douleurs de l'enfantement lui étaient survenues, elle devait avoir été assurément dans un état complet de démence. Sur 5 médecins appelés à constater quel avait pu être son état moral lors de son accouchement, un seul avait affirmé l'aliénation, et 4 l'avaient nié. Au moment où l'accusateur public, Monsieur de l'Argentière, se leva et entonna sa déclamation, Apolline, frappée comme un accent connu, tourna ses regards sur lui, jeta un cri perçant et se renversa sans connaissance. Jamais réquisitoire ne fut plus violent et plus inhumain. Il n'est rien que Monsieur de l'Argentière ne mit en jeu pour accabler l'accusé. Il poussa sa rage extravagante jusqu'à la comparer à Saturne qui dévorait ses enfants et se résuma en demandant sa tête. « Ne vous laissez point séduire, criait-il, par les beaux dehors de cette mer dénaturée. Le laurier rose contient un venin subtil. La beauté n'est souvent que le voile de la perfidie. Ne vous laissez point faiblir, messieurs. Il faut un exemple absolument pour arrêter l'infanticide dans son cours. « Messieurs, soyez inexorables, vous serez justes !» L'avocat d'Apolline, avec un rare talent, s'acquitta de sa défense. Son plaidoyer aurait arraché des larmes à des tigres. Le tribunal resta froid, et l'accusateur commença sa sauvage réplique. Quand la pauvre Apolline eut recueilli ses esprits, elle se leva brusquement, et montrant du poing l'accusateur, monsieur de l'Argentière. « C'est lui » criait-elle, « c'est lui ! Je reconnais sa voix, c'est lui ! Cet homme-là qui parle ! C'est lui que j'ai vu au rayon de la lune, blême et rouge, l'œil caverneux !» Puis, fondant en larmes, elle jetait des hurlements. « Cet enfant est égaré !» dit froidement monsieur de l'Argentière, dont la morne physionomie n'avait pas laissé paraître la plus légère émotion. « Emmenez l'accusé. Et nous, messieurs, passons dans la salle de délibération, » ordonna le président. Au bout d'un quart d'heure, la cour entra en séance. Le jury, ayant répondu affirmativement à toutes les questions posées, le président fit la lecture de la sentence qui condamnait Apolline à la peine capitale. Elle écouta son arrêt avec dignité et dit seulement, se tournant du côté de l'accusateur public, « Ceux qui envoient au bourreau sont ceux-là même qui devraient y être envoyés !» Son défenseur, égaré, pleurant et se heurtant le front, se jeta dans ses bras et l'embrassa, au grand scandale de la cour, qui demanda si elle voulait se pourvoir en cassation. « Oui, répondit Apolline, mais au tribunal de Dieu. » Le matin du jour, on lui envoya un prêtre pour se préparer. Il ne sortit plus d'auprès d'elle. Apolline lui ayant naïvement raconté son histoire, le pauvre homme, convaincu de son innocence, pleurait désespéré. Celui qui était venu la consoler était plus faible qu'elle et plus inconsolable. « Pauvre martyr » l'appelait-il, en lui baisant les pieds comme on baise une chaste sainte. Il n'osait lui parler de son Dieu juste et bon. Sa providence était trop compromise par cette vie fatale. À 4 heures, le geôlier monta la vertière. Sa toilette achevée, elle descendit soutenant son confesseur. Aussitôt, la charrette se mit en marche. Il semblait que toute la population de Paris s'était encaquée du palais à la grève. De haut en bas, les maisons étaient chargées de spectateurs avides. Jamais supplice n'avait attiré plus de monde. « La voilà, la voilà !» répétait-on de rang en rang. Quelle était belle, du haut de son tombereau, cette infortunée Apolline. Quelle dignité, quelle résignation. Son teint était plus blanc que le peignoir qui l'enveloppait, et sa chevelure plus noire que le prêtre qui pleurait à ses côtés. Elle promenait sur la foule son regard langoureux. Les commères lui montraient le poing, et les jeunes hommes attendris lui envoyaient des baisers. Enfin, la charrette déboucha sur la grève. En montant à l'échelle, Apolline aperçut à une croisée monsieur de l'Argentière, qui la fixait froidement. Elle en jeta un long cri d'horreur et tomba faible entre les bras d'un valet de guillotine. Il se fit alors un brouhaha général et une fluctuation dans la foule. Il pleuvait. « À bas les parapluies, on ne voit pas » criait-on de toutes parts. « À bas les parapluies !» répétaient des voix de femmes. « Soyez galants, messieurs, on ne voit pas !» Toute la tourbe, le cou tendu, était sur la pointe des pieds. Quand le coutelas tomba, il se fit une sourde rumeur. Et un Anglais, penché sur une fenêtre qu'il avait louée 500 francs, fort satisfait, cria un long « Fare we well !» en applaudissant des mains.